إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, comme vous le savez, nous entrerons dans quelques jours, inshallah ta'ala, dans un mois béni, qui est le mois de Ramadan. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire atteindre ce mois et de nous permettre de jeûner durant ces journées, de prier durant ces nuits, et ce, de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée de nous. Il n'y a pas de doute que le croyant a le cœur rempli de joie à l'approche du mois de Ramadan, car ce mois fait partie des meilleurs moments de l'année pour le musulman. C'est un mois durant lequel on se consacre à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la multiplication des bonnes œuvres et à l'éloignement des péchés et des mauvaises actions. Donc le mois de Ramadan, c'est une occasion immense afin de nous repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, afin de nous rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala et afin de réformer et améliorer nos situations. Durant le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala accroît les récompenses. C'est un mois dont les bienfaits sont nombreux, un mois durant lequel nombreux sont ceux à obtenir la miséricorde et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et à affranchir leurs âmes du feu de l'enfer. Comme vous le savez, le mois de Ramadan est le mois du jeûne, ce jeûne qui est le quatrième des piliers de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, « Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Et le mois de Ramadan, c'est aussi le mois de la prière de nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à ce sujet, « Celui qui accomplit la prière de nuit durant Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Et le mois de Ramadan, c'est aussi le mois durant lequel se trouve une nuit meilleure que 1000 mois, celle durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Et c'est la nuit d'Al-Qadr, la nuit du destin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, « Celui qui veille en adoration durant la nuit du destin, avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. » On voit donc à travers cela une multitude d'opportunités pour nous de nous faire pardonner nos péchés par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mois de Ramadan, c'est aussi le mois du Coran, le mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé son noble livre. Donc durant ce mois, tu vas faire des efforts dans la lecture du Coran, des efforts dans sa récitation, mais aussi des efforts dans sa méditation et dans sa mise en pratique. Et ce plus que tu ne le fais durant les autres mois de l'année. Et ainsi tu obtiendras par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala de nombreuses récompenses décuplées. Et le mois de Ramadan, c'est aussi le mois de la bonté, le mois de la générosité, le mois durant lequel les croyants vont multiplier les aumônes, et ce afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Suivant ainsi l'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était le plus généreux des gens et qui était encore plus généreux durant le mois de Ramadan. Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, rapporte d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vient le Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, et les démons sont enchaînés. Les portes du paradis sont ouvertes, et ce en raison des nombreuses bonnes actions qui sont accomplies par les croyants, mais aussi afin d'encourager ceux qui accomplissent et multiplient le bien durant ce mois. Et les portes de l'enfer sont fermées, car les croyants, ils ne commettent que très peu de péchés durant le mois de Ramadan. Et les diables sont enchaînés, ce qui les empêche de commettre ce qu'ils font durant les autres mois de l'année. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ramadan est un mois béni, durant lequel les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les démons sont enchaînés, et un annonciateur clame chaque nuit « Ô toi qui veux le bien, accours à celui-ci, c'est-à-dire accours au bien. Ô toi qui veux le mal, renonce à celui-ci, renonce à l'accomplissement du mal. Chers frères et sœurs, à l'écoute de ces nombreux textes qui nous démontrent le mérite du mois de Ramadan, ainsi que les nombreux bienfaits que le mois de Ramadan comporte, toute personne douée de raison comprendra alors que l'arrivée d'un mois occupant un tel rang dans notre religion, cela ne doit pas nous laisser insouciants et ne pas nous laisser indifférents. Mais il incombe à chacun d'entre nous de faire des efforts afin de nous préparer à accueillir ce mois de la meilleure manière, bi'idhnillahi ta'ala. Et quelle est la meilleure manière de nous préparer pour accueillir ce mois? Il n'y a pas de doute que la meilleure manière de nous préparer, c'est d'apprendre ou alors de réviser et se remémorer les règles religieuses liées au mois de Ramadan. Apprendre les règles du jeûne afin de savoir pour qui le jeûne est obligatoire, pour qui il est permis de rompre, qu'est-ce qui annule le jeûne, et ainsi de suite parmi les règles du jeûne. De la même manière, il est important pour nous d'apprendre les règles liées à la prière de nuit, surtout en cette période de confinement, durant laquelle nous accomplirons cette prière dans nos maisons, incha'Allah ta'ala, et ce en raison de la fermeture des mosquées. Il est donc nécessaire pour chacun d'entre nous d'apprendre les règles de cette prière, afin de pouvoir l'accomplir de la manière qui plaît à Allah, subhanahu wa ta'ala. Car celui qui accomplit une adoration, il ne peut profiter de cette adoration qu'à deux conditions. La première condition, c'est que tu l'accomplisses sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, en lui vouant cette adoration exclusivement en dehors de tout autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième condition, c'est que tu accomplisses cette adoration conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci sont donc les deux conditions d'acceptation des œuvres. Et tu ne pourras concrétiser ces deux conditions dans tes œuvres que par l'apprentissage de la science et l'apprentissage de ces règles en ce qui concerne le jeûne et la prière de nuit. C'est donc pour cela que j'ai choisi durant ces jours de faire ce séminaire, afin que l'on s'entraide dans le bien et que l'on révise ensemble les règles essentielles liées au mois de Ramadan. Et dans cette première assise, nous allons parler, incha'Allah ta'ala, du jugement du jeûne ainsi que de ses sagesses. Donc comme on vient de le voir, le jeûne du mois de Ramadan est un des piliers de l'islam. Et c'est une obligation qui nous a été prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum al-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqoon. » Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, l'islam est fondé sur 5. L'attestation que nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône, la zakat, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage de la maison. On voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait du jeûne du mois de Ramadan une des 5 choses sur lesquelles l'islam est fondé, c'est-à-dire que c'est un de ses piliers. Il n'y a donc aucune divergence entre les musulmans concernant l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, c'est-à-dire que c'est une question qui fait unanimité. Car l'obligation du jeûne, elle est prouvée par les textes de façon incontestable. Ainsi, celui qui renie l'obligation du jeûne de Ramadan et prétend qu'il n'est pas obligatoire, alors celui-ci a mécru. C'est-à-dire qu'il sort de la religion de l'islam, car en faisant cela, il aura renié une des choses nécessairement connues de la religion qu'aucun musulman n'est censé ignorer. Et le jeûne du mois de Ramadan, il fut prescrit à Médine, et ce en l'an 2 de l'Hégire, c'est-à-dire la deuxième année après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque jusqu'à la ville de Médine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné dans sa vie 9 fois le mois de Ramadan. Et la prescription du jeûne, elle a eu lieu en 2 étapes. Au départ, les musulmans avaient le choix. C'est-à-dire que pour chaque jour du Ramadan, ils avaient le choix entre le jeûne ou la compensation. C'est-à-dire le fait de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et le jeûne était préférable à la compensation. Par la suite, le jeûne fut prescrit pour tous. C'est-à-dire pour tous les concernés par son obligation. Et ce, sans avoir la permission de compenser au lieu de jeûner. Et ceci fut la deuxième étape. Et ceci nous est prouvé un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, d'après Salama ibn al-Aqwa, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, lorsqu'est descendue la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec difficulté, il y a une compensation qui est de nourrir un pauvre. Il dit, radiyallahu ta'ala anhu, ceux qui le voulaient ne jeûnaient pas et donnaient la compensation, jusqu'à ce que descende le verset d'après qu'il abrogea, c'est-à-dire qu'il a abrogé ce choix et annulé la permission de compenser à la place du fait de jeûner. Et ce verset, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quiconque d'entre vous est présent ce mois, alors qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah subhanahu wa ta'ala a donc enjoint le jeûne sans laisser le choix entre celui-ci et la compensation. Quant aux personnes pour qui le jeûne est obligatoire, alors ceci sera le sujet de notre assise de demain, incha'Allah ta'ala. Mais nous allons voir ici à quel moment le jeûne devient-il obligatoire, c'est-à-dire à partir de quand. Le jeûne devient obligatoire dès que l'entrée du mois de Ramadan est confirmée. Et il n'est pas permis de commencer à jeûner avant l'entrée du mois de Ramadan. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Qu'aucun d'entre vous ne fasse précéder le Ramadan par un ou deux jours de jeûne, sauf un homme qui a pour habitude de jeûner alors qu'il jeûne. » Donc comme vous le voyez, ce hadith nous prouve qu'il est interdit de jeûner le jour du doute, c'est-à-dire la veille du Ramadan, comme certaines personnes le font, en prétendant que ce serait une précaution. Et ceci est interdit d'après cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, si quelqu'un a pour habitude de jeûner, par exemple cette année, il est possible que le premier jour du mois, ce soit un vendredi. Et comme vous le savez, il est recommandé de jeûner les lundis et les jeudis, et ce de manière générale, tout au long de l'année. Donc si une personne a l'habitude de jeûner les jeudis, alors il lui est permis de jeûner ce jour, car c'est son habitude. Et son intention, c'est quoi? C'est le jeûne du jeudi. Ce n'est pas de faire précéder le jeûne du mois de Ramadan d'un ou deux jours par précaution. Ceci est donc spécifique à celui qui a l'habitude de jeûner, comme nous le prouve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Sauf un homme qui a pour habitude de jeûner alors qu'il jeûne. Il peut jeûner car ceci est son habitude. » De la même manière, il est permis pour celui à qui il reste un jour du Ramadan précédent, car celui-ci, le jeûne est pour lui obligatoire. Celui à qui il reste un jour du Ramadan précédent, un jour du Ramadan de l'année dernière. Alors il est obligatoire pour lui de s'empresser de rattraper ses jours car il ne lui reste ici que quelques jours. Et à supposer que la veille du Ramadan, il lui reste encore un jour à rattraper. Alors ce jour, il sera obligé de le jeûner. Car celui qui n'a pas d'excuse, il ne lui est pas permis de retarder le rattrapage du jeûne au-delà du mois de Ramadan suivant. On a donc dit que le jeûne devient obligatoire dès l'entrée du mois de Ramadan. Reste à savoir comment détermine-t-on l'entrée du mois de Ramadan. Les gens de science ont mentionné que l'entrée du mois de Ramadan peut être déterminée de deux façons. La première façon, c'est la vue de la nouvelle lune. Et ce, d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ » Quiconque parmi vous observe ce mois, qu'il jeûne. Et ceci est également prouvé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Lorsque vous voyez la nouvelle lune, alors jeûnez. » Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Et il faut savoir que ce n'est pas une condition que tout le monde voit la nouvelle lune, mais il suffit du témoignage d'une seule personne, afin que le jeûne soit obligatoire pour tous. Toutefois, ce témoin doit remplir certaines conditions, sinon son témoignage ne pourra pas être accepté. Et parmi ces conditions, il y a le fait qu'il soit pubère, c'est-à-dire que l'on n'acceptera pas ici le témoignage d'un enfant impubère. Il y a le fait également qu'il soit doué de raison, donc on n'acceptera pas le témoignage d'un fou. Également parmi les conditions, il y a le fait qu'il soit musulman. Le témoignage du mécréant n'est donc pas accepté à ce sujet. Et enfin, la quatrième condition est qu'il soit de confiance concernant deux choses, son honnêteté ainsi que sa vue. Ceci sont donc les conditions que doit remplir celui qui témoigne de l'apparition de la nouvelle lune afin que son témoignage soit accepté. Et le fait de se suffire du témoignage d'une seule personne, cela est spécifique au mois de Ramadan. Alors que les autres mois, il est nécessaire d'avoir deux témoins afin de s'assurer de l'entrée du mois. Et la preuve à ce sujet, la preuve qu'il suffit d'un seul témoin pour le mois de Ramadan, c'est le hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, qui a dit: les gens cherchaient à voir la nouvelle lune. J'ai alors informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que je l'avais vue. Il a alors jeûné et a ordonné aux gens de jeûner. Il a jeûné sous le témoignage de qui? En se basant sur le témoignage de Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma. Il s'est donc suffi du témoignage d'une seule personne. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud et Al-Hakim qui l'a authentifié. Il est donc obligatoire pour celui qui voit la nouvelle lune d'en informer les autorités. Et ce car l'obligation du jeûne découlera de son témoignage. Et si une personne voit la nouvelle lune alors qu'elle se trouve dans un endroit isolé et qu'elle est dans l'incapacité d'en informer les autorités, alors elle devra tout de même jeûner. Pourquoi? Car en ce qui la concerne, elle aura observé la nouvelle lune, et elle aura la certitude que le mois est entré. Elle devra donc jeûner en se basant sur sa propre vision. Et l'entrée du mois de Ramadan, elle est donc confirmée par la vue de la nouvelle lune, que ce soit en la voyant soi-même, ou alors en recevant le témoignage d'un autre l'ayant vue, si ce témoin remplit les conditions que l'on a mentionnées précédemment, ou alors en étant informé de cela, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui. On jeûne lorsque nous sommes informés que la lune a bien été observée. Donc si un musulman, remplissant les conditions que l'on a citées, témoigne avoir vu la nouvelle lune de Ramadan, alors l'entrée du mois de Ramadan est confirmée par son témoignage. La deuxième façon de confirmer l'entrée du mois, c'est de compléter la durée du mois de Sha'ban à 30 jours. Donc le mois de Sha'ban, c'est le mois dans lequel nous sommes actuellement, qui est le mois lunaire qui précède le mois de Ramadan. Et les mois lunaires, ils font forcément 29 ou 30 jours, ni plus ni moins. Donc dans le cas où l'on ne voit pas la nouvelle lune et que nul ne témoigne l'avoir vue, il est alors obligatoire de compléter la durée de Sha'ban à 30 jours. C'est-à-dire que l'observation de la nouvelle lune, elle a lieu quand? Elle a lieu la veille du jour qui peut être le 30e jour du mois de Sha'ban ou alors le premier du mois de Ramadan. Donc si personne n'observe la lune à ce moment-là, c'est alors une obligation pour les musulmans de compléter la durée de Sha'ban à 30 jours. Et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: jeûnez lorsque vous le voyez, c'est-à-dire le croissant lunaire, la nouvelle lune. Rompez lorsque vous le voyez. Et si vous n'arrivez pas à le voir, alors complétez la durée de Sha'ban à 30 jours. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Donc comme vous le voyez, ce hadith, c'est une preuve claire et explicite que l'entrée du mois, elle ne peut pas être déterminée d'une autre manière que les deux manières que l'on vient de mentionner. L'observation de la nouvelle lune ou alors en complétant la durée de Sha'ban à 30 jours. Et méditez ici sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: et si vous n'arrivez pas à le voir? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si le ciel est couvert par exemple, il est possible que la nouvelle lune soit présente, mais que vous n'arrivez pas à la voir. Alors dans ce cas, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné? Alors complétez la durée de Sha'ban à 30 jours. Et ce hadith, c'est une des preuves les plus pertinentes, démontrant que les calculs astronomiques ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour déterminer l'entrée du mois de Ramadan. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint de jeûner d'après la vision de la lune, et non pas en fonction des calculs ou de la présence ou non de la lune. Mais ceci est seulement lié à la vision. C'est-à-dire qu'il est possible que la lune soit présente, mais que personne parmi les musulmans ne l'observe. Alors dans ce cas-là, l'obligation pour nous est de compléter la durée de Sha'ban à 30 jours. Ceci sont donc quelques règles liées à la détermination de l'entrée du mois de Ramadan. Et parmi les choses qu'il est nécessaire pour nous de savoir, il y a le fait que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle renferme de nombreuses sagesses. C'est-à-dire que toute adoration, toute règle, toute loi religieuse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée, elle renferme forcément une sagesse. Et cette sagesse, il est possible que certains parmi nous la connaissent, tout comme il est possible que l'on ignore cette sagesse. Et le fait que tu ignores la sagesse pour laquelle Une adoration a été légiférée. Cela ne veut pas dire que celle-ci ne renferme aucune sagesse. Au contraire, cela te prouve plutôt ton incapacité et ta faiblesse à percevoir la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et on ne vous a donné que peu de connaissances. À partir de là, le musulman comprend qu'il ne lui incombe que de se soumettre aux législations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui en connaissent les sagesses ou non. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne le jeûne, les gens de science ont mentionné un certain nombre de ces sagesses. On va donc voir maintenant, inshallah ta'ala, quelques sagesses que renferme la législation du jeûne. Parmi ces sagesses, il y a le fait que le jeûne est une adoration par laquelle le serviteur se rapproche de son Seigneur. Et ce par quoi? Par le délaissement de ce qu'il aime et de ce qu'il désire. Comme par exemple, la nourriture, la boisson et autres choses qui nous sont interdites lorsque l'on jeûne. Donc lorsque tu jeûnes, tu délaisses ces choses que tu aimes par nature et ces choses que tu désires. Et tu les délaisses pourquoi? Afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en faisant cela, tu montres la véracité de ta foi et tu mets en évidence ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que la véracité de ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce car l'homme, il ne délaisse une chose qu'il aime que pour une chose qu'il aime plus encore. Donc ici en l'occurrence, tu vas délaisser ces choses que tu aimes, comme la nourriture et la boisson, pourquoi? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car ton amour pour Allah est bien plus grand que ton amour pour ces choses. Donc comme le croyant sait que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il jeûne, il se trouve dans le fait de délaisser ce qu'il aime parmi les nourritures et les boissons et autres. Il fait donc prévaloir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de ses passions et ses désirs, et il les délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie des sagesses de la législation du jeûne. Parmi ces sagesses également, il y a le fait que le jeûne, c'est une cause et un moyen te permettant d'atteindre la piété. En effet, médite sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit: Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alalladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous démontre la sagesse de cette législation. Ainsi atteindrez-vous la piété. C'est-à-dire que le jeûne, ça va être un moyen pour toi te permettant d'atteindre la piété. Et la piété, qu'est-ce que c'est? At-taqwa. C'est le fait de te soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné, tu t'y soumets, tu l'accomplis. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit, tu t'en écartes et tu le délaisses. Ceci est la piété. Donc lorsque tu jeûnes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas œuvrer dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas t'écarter des péchés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles, ainsi que leur mise en pratique, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Ce hadith est rapporté par l'imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Lorsque tu jeûnes, tu délaisses des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis en d'autres temps. Tu délaisses la nourriture, tu délaisses la boisson, alors que ceci t'est permis tout au long de l'année. Mais lors du jeûne, tu délaisses ces choses afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si tu délaisses des choses qui sont à la base permises en d'autres temps, tu dois alors à plus forte raison t'éloigner des péchés, qui eux sont interdits à tout moment de l'année. Donc lorsque tu jeûnes et que tu penses à commettre un péché, que ton âme t'incite à commettre une mauvaise action, tu dois te rappeler que tu jeûnes. Et ceci t'aidera à t'éloigner de ces péchés. Et petit à petit, ceci va te conduire à la piété, insha'Allah ta'ala. Et c'est d'ailleurs pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui jeûne, s'il se fait injurier, de ne pas répondre à cette injure, mais de se contenter de dire « Je suis jeûneur ». Qu'est-ce que cela signifie? Il prononce cette parole afin de se rappeler qu'il ne convient pas à celui qui jeûne de prononcer des injures ou des paroles futiles ou des paroles interdites. Donc il s'abstient de prononcer cette injure. Pourquoi? Parce qu'il jeûne. Et ceci va l'aider à ne pas répondre à l'injure Et à ainsi préserver son jeûne, faisant alors preuve de piété pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et en ce qui concerne le comportement que doit adopter le jeûneur, on parlera de cela lors d'une prochaine assise, inshallah ta'ala, lors de ce séminaire. On compte aussi parmi les sagesses du jeûne qu'il te permet de consacrer ton cœur à la méditation et au rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En effet, lorsque tu satisfais tes désirs, en termes de nourriture, de boisson et ainsi de suite, bien souvent, ceci est la cause de l'insouciance du cœur et de la distraction du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il se peut même que ces choses, si elles sont faites dans l'excès, en viennent à endurcir le cœur du musulman. Parfois même, dans certains cas, à ce qu'un voile vienne recouvrir le cœur de la personne, à tel point qu'elle ne puisse plus voir la vérité. On demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous préserver. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une orientation très bénéfique à sa communauté, qui est le fait de faire preuve de modération vis-à-vis de la nourriture et de la boisson. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'enfant d'Adam n'a pas rempli un récipient plus mauvais que son ventre. Quelques bouchées suffisent à l'enfant d'Adam afin qu'il tienne son dos droit. Mais s'il ne peut pas se contenter de cela, c'est-à-dire s'il ne peut pas se contenter de quelques bouchées, alors un tiers pour sa nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour sa respiration. Et ce hadith est rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi, qu'il a authentifié, rahimahumullah ta'ala. De même que l'imam al-Albani a authentifié ce hadith. Ce hadith, il nous prouve qu'il ne convient pas aux musulmans, et ce en tout temps, de faire preuve d'excès en ce qui concerne la nourriture et la boisson. Donc le jeûne, de par ton délaissement de ces choses, il va te permettre de te préserver des méfaits qu'il peut y avoir dans l'excès de la consommation de ces choses qui sont permises. Ainsi, tu pourras te consacrer au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la méditation. Et ceci est une chose que chacun d'entre nous peut observer. En effet, lorsque tu jeûnes, tu verras qu'il est plus facile pour toi de te consacrer à la lecture du Coran. Car tu n'es pas distrait par ces choses. Tu n'es pas distrait par le fait de manger, de boire et ainsi de suite. Abu Sulayman Ad-Darani, rahimahullah ta'ala, a dit, lorsque l'âme est affamée et assoiffée, le cœur se purifie et s'attendrit. Le cœur se purifie et s'attendrit. Et lorsqu'elle est rassasiée, le cœur devient aveugle. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cela. On compte également parmi les sagesses du jeûne qu'il permet aux riches de se rendre compte des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés. En termes de nourriture, en termes de boisson, en termes de mariage, et ce alors que de nombreuses personnes sont privées de ces choses-là. Donc lorsque tu observes le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a favorisé en te facilitant ces choses-là, ceci va te pousser à faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et à le louer pour ses bienfaits. Et cette reconnaissance, elle va se manifester par le fait que tu vas faire profiter de cette richesse à tes frères et sœurs qui sont dans le besoin. Donc tu vas te rappeler de tes frères et sœurs qui n'ont pas été comblés de ces bienfaits, qui vivent dans la pauvreté. Et certains passent peut-être même des jours et des nuits affamés tout au long de l'année. Donc cette faim et cette soif que tu vas ressentir durant le mois de Ramadan, elle va te pousser à faire preuve de générosité envers eux. Et ce, en leur donnant des aumônes. Suivant ainsi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, comme on a dit, était le plus généreux des gens et qui était encore plus généreux durant le mois de Ramadan. Il convient donc aux musulmans durant ce mois de multiplier les aumônes et de ne pas oublier ses frères et ses sœurs qui sont dans le besoin, notamment en cette période de confinement. Comme vous le savez, nombre de personnes ne peuvent plus se rendre dans leur travail. Ils ne peuvent plus faire les causes afin d'obtenir leurs moyens de subsistance. Il convient donc à celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait grâce, en lui accordant une subsistance abondante, de penser à ses frères et sœurs qui sont dans le besoin et à faire preuve de générosité avec eux, notamment durant ce mois de Ramadan. On compte aussi parmi les sagesses du jeûne qu'il te permet de t'entraîner à contrôler ton âme, afin de prendre le dessus sur ton âme et de la pousser vers le bien qui te mènera au bonheur, ici-bas ainsi que dans l'au-delà. En effet, comme vous le savez, la nature de l'âme, c'est qu'elle est incitatrice au mal, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala la préserve de par sa miséricorde. Donc si l'homme laisse libre cours à son âme, qu'il ne la maîtrise pas, qu'il ne prend pas le dessus sur elle, qu'il obéit à tous ses caprices, alors qu'est-ce qu'il va se produire? Son âme le conduira à la perdition. Elle le conduira à sa perte. C'est pour cela qu'il convient au musulman de prendre le dessus sur son âme et de la contraindre à se soumettre à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si tu prends le contrôle sur ton âme, que tu domines ton âme, tu vas alors pouvoir la conduire vers le bien et la piété, insha'Allah ta'ala. Et le jeûne donc, c'est un entraînement pour cela. Car tu prives ton âme de nourriture, alors que ton âme désire cette nourriture. Tu prives ton âme de boisson, alors que ton âme désire cette boisson. Et ainsi de suite. Donc tu t'entraînes à prendre le dessus sur elle et à la dominer. Et par la suite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la même chose avec les autres péchés auxquels ton âme t'incite. Tu vas prendre le dessus sur elle et refuser de te soumettre à ses désirs et ses passions en faisant prévaloir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction. On compte aussi parmi les sagesses du jeûne que celui-ci rétrécit les voies du diable dans le corps de l'homme. En effet, les veines, elles rétrécissent à cause de la faim et de la soif. De ce fait, les voies du diable, elles rétrécissent aussi. Et ce, car il circule dans l'enfant d'Adam de la même manière que le sang. Donc le jeûne, cela va être une cause pour repousser de toi les suggestions du diable, pour repousser de toi les désirs interdits, ainsi que la colère. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux jeunes qui ne peuvent pas se marier de jeûner. Et il a qualifié le jeûne comme étant pour eux une protection, c'est-à-dire une protection contre les désirs interdits et les passions. Donc lorsque tu jeûnes, tu observeras que ton âme aura moins de penchant pour les désirs interdits. Et ce, car le jeûne t'en éloigne et t'en préserve. Et que c'est comme un bouclier face au péché. C'est pour cela que durant le mois de Ramadan, les péchés diminuent. Car les musulmans sont moins sujets aux suggestions du diable qui les poussent au péché. Enfin, on compte aussi parmi les sagesses du jeûne tout ce qui en découle comme bénéfice pour la santé. Et ce, du fait de la diminution de la nourriture et de la boisson. Ainsi, le fait de ne pas manger et de ne pas boire, cela va permettre à ton appareil digestif de se reposer et d'éliminer ainsi certaines substances qui sont nuisibles pour le corps de l'être humain, comme les toxines ou autres. Et ceci, c'est un des bienfaits du jeûne, qui est une des conséquences du jeûne. Toutefois, attention, cela ne doit en aucun cas être une finalité ou un objectif recherché. C'est-à-dire que ta seule motivation lorsque tu jeûnes, c'est quoi? C'est d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ces bienfaits-là, le bienfait que tu obtiens pour ta santé et ainsi de suite, ceci est une conséquence du jeûne. Mais cela ne doit en aucun cas être ton objectif à travers ton jeûne. Ceci est simplement une conséquence dont tu vas tirer profit, bi'idhnillahi ta'ala. Donc on voit à travers ces différentes sagesses que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une législation parfaite, et qu'elle renferme de nombreuses sagesses, de nombreux bénéfices et de nombreux profits pour l'homme ici-bas ainsi que dans l'au-delà. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, insha'Allah ta'ala, et nous verrons dans l'assise de demain, bi'idhnillahi ta'ala, les conditions rendant le jeûne obligatoire ainsi que les excuses permettant à la personne de ne pas jeûner. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.